Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois, micro. Hockeyeur, on le disait fougueux, déterminé et courageux, ayant un grand esprit d'équipe. Il a joué pour les Nordiques de Québec, le Lightning de Tampa Bay et les Kings de Los Angeles. 12 saisons dans la Ligue nationale de hockey qui lui ont appris beaucoup. Aujourd'hui, Steven partage son expérience afin d'amener les gens à se propulser et à atteindre leur plein potentiel, à prendre conscience des bienfaits d'une attitude positive. J'ai mentionné son prénom, c'est Steven Finn qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors, qui était donc ce joueur, pour ceux qui ne suivent peut-être pas assidûment le hockey?
Je pense que vous l'avez bien dit dans la description. J'étais, malgré que je suis pas si gros que ça physiquement, parce que j'étais toujours en dessous de la moyenne au niveau des défenseurs. Moi, quand je jouais à 6 pieds, 196 livres. Et la moyenne, quand j'ai quitté la Ligue nationale, était rendue à 6 et 2, 220.
Ah oui?
Mais j'ai tout le temps été un gars, dans le fond, on me décrivait comme un guerrier. T'sais, j'étais un gars qui jouait physique, qui était tout le temps là pour prendre la défense d'un coéquipier.
Parler de défense, vous étiez défenseur.
Oui.
Et vous avez connu ces années extraordinaires, celles des Nordiques de Québec, où la rivalité, particulièrement avec les Canadiens de Montréal, était très grande.
C'était quelque chose à vivre.
Ah, ouais. Oui. Quand vous disiez que vous étiez guerrier, je regarde, je ne suis pas un connaisseur de hockey, mais vous m'avez éclairé sur une donnée, je vois en termes de minutes, c'est bien cela, 1724 minutes de punition, c'est 30 heures sur le banc.
Oui, je pense que j'ai passé plus de temps au banc de punition qu'au banc des joueurs.
Vous étiez un bagarreur?
Bagarreur, c'est un grand mot. T'sais, excusez l'anglicisme, mais au hockey, les policiers, on les appelle les heavyweight. Mais moi, j'étais plus un middleweight. Quoi que ça m'est arrivé de me battre avec des heavyweight. Mais j'étais un gars qui se battait peut-être 9-10 fois par année. Et la plupart du temps, c'était provenant à défense de mes coéquipiers. T'sais, comme Peter Stachny, Michel Goulet, Joe Sakic. Quand l'équipe, là, de l'autre côté, abusait un peu trop de nos joueurs vedettes.
Aviez-vous une commande, littéralement, pour dire, bon, ben maintenant, il faut que tu puisses isoler tel ou tel joueur, ou c'était simplement par tempérament?
Ça m'est jamais arrivé d'avoir une commande, et je ne l'aurais pas apprécié, d'ailleurs. Ça faisait partie de mon style, de mon caractère, et ça m'est déjà arrivé de demander à l'entraîneur, quand tel joueur de l'autre côté va embarquer, embarque-moi, j'ai des choses à régler. Ça, le demander à l'entraîneur, c'est déjà arrivé, mais que l'entraîneur me le demande, ça m'est jamais arrivé.
Mais vous étiez aussi avec un entraîneur fougueux également, Michel Bergeron.
Ouais, quand j'ai commencé ma carrière dans la Ligue nationale, c'était Michel Bergeron, et puis moi, c'est un gars que je respecte beaucoup. T'sais, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs, mais Michel Bergeron, c'est un motivateur, c'est à peu près le meilleur que j'ai vu pour sortir le meilleur de chaque homme. Et dans mon cas, moi, il n'y a pas besoin de communiquer beaucoup. Souvent, avant le match, il passait à côté de moi dans le vestiaire, il se donnait une tape sur l'épaule, il disait même pas un mot, il me regardait, il se donnait une tape sur l'épaule, il faisait un clin d'œil, puis son message était passé.
Steven Finn, la question qui vient probablement traverser l'esprit de bien des gens, comment arrive-t-on un jour à 21 ans, je crois, dans la Ligue nationale de hockey?
Moi, mes premiers matchs, j'ai joué à 19 ans. Ça a été tout un combat pour moi à cause de mon caractère, à cause de mon attitude, mais je me considère très, très privilégié d'avoir ça. Évidemment, ça prend un talent au-dessus de la moyenne, mais ça prend également beaucoup, 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 beaucoup de caractère. Parce que j'ai vu beaucoup de gars à talent égal qui n'ont jamais réussi à percer.
Vous allez nous proposer beaucoup de pièces musicales au cours de cette émission. La toute première, un chanteur que vous adorez.
Oui, Phil Collins.
Ou Charles Aznavour.
C'est
les deux.
Oui, puis moi, j'ai été... Vraiment, c'est un phénomène quand tu regardes là, dans la chanson que ce gars-là performe encore aujourd'hui. J'ai été élevé à entendre mes parents qui écoutaient de Charles Aznavour. J'aime toutes ses chansons. Puis aujourd'hui, c'est drôle, à la maison, moi, j'ai trois garçons. Un de 23, un de 21 et un de 18 ans. Quand on fait des soupers de famille, les copines sont là, on est tout autour de la table, on écoute Charles Aznavour, tout le monde chante. Fait que je pense que toutes les générations apprécient Charles Aznavour.
Cette chanson, on m'a donné, on pourrait peut-être dire qu'on vous a donné beaucoup de talent. Vous aviez un talent naturel, sans aucun doute, pour arriver un jour dans la Ligue nationale. C'est une histoire un peu différente que raconte celle d'Aznavour, parce que lui constate qu'on lui a donné beaucoup, mais en vain, parce qu'il a perdu la flamme qu'il a mis.
C'est triste.
On m'a donné des yeux et l'on m'a dit: regarde, j'ai eu beau regarder, je n'ai rien entrevu. On m'a donné un cœur et l'on m'a dit: prends garde, J'ai eu beau prendre garde, un jour je l'ai perdu. On m'a donné l'amour, hélas, je le regrette. Car il s'en est allé, depuis je n'y crois plus. On m'a donné un corps, mais j'ai perdu la tête. Et j'ai souillé mon corps dans les draps d'inconnus. On m'a donné, on m'a donné bien plus. On m'a donné des rêves, mais quelle imposture! Car ces rêves ne sont que de longs cauchemars. On m'a donné des lèvres afin qu'elles murmurent. Elles n'ont jamais dit que des mots sans espoir. On m'a donné des larmes de joie, de souffrance. Je ne pleure jamais car mon cœur est de bois. On m'a donné aussi en plus une conscience. Mais au fond de moi-même, elle n'a plus de voix. On m'a donné pourquoi. On m'a donné des livres afin que je les lise, mais je les ai brûlés sans les avoir ouverts. On m'a donné des mains pour les joindre à l'église, mais qui sait si j'irai au ciel ou en enfer. On m'a donné une âme à garder pure et blanche, mais j'ai vendu mon âme au diable un beau matin. On m'a donné la vie qui a pris sa revanche quand j'ai gâché la vie que j'avais dans mes mains. Dieu m'est témoin. On m'a donné,
donné Charles Aznavour, proposé par Stephen Finn. Stephen Finn, qui a été un joueur pendant 12 saisons, c'est exact, dans la Ligue nationale de hockey.
12 saisons, oui, dans la Ligue nationale, c'est bien ça.
Les plus nombreuses ont été avec les Nordiques de Québec.
10 ans avec les Nordiques. Par la suite, moi, quand l'équipe a été vendue à des gens d'affaires du Colorado, ça a été une grosse épreuve là, pour toute ma famille. J'ai été au Colorado jusqu'à la veille du début de la saison régulière. Après ça, échangé à Tampa Bay. Moi, je dis, j'ai été là pour le temps d'un café. Là, j'étais là un mois et demi. J'ai joué, je pense, 17 matchs. Et après ça, j'ai terminé ma carrière avec les Kings de Los Angeles.
Est-ce que ça, c'est difficile quand on doit déménager? Parce qu'il faut le faire.
Bien, c'est toujours difficile. Surtout que moi, 10 ans à Québec, j'avais un gros, gros sentiment d'appartenance. Pour moi, là, l'uniforme, c'était important. J'avais une fierté de porter ce chandail-là. Puis je vous dirais que j'ai perdu une partie de ma fougue quand que j'ai quitté Québec.
Est-ce que le public est différent dans une ville comme Los Angeles ou Tampa?
C'est le jour et la nuit.
Ah oui? Je veux
dire, à Québec, les gens sont connaisseurs de hockey, sont exigeants. Mais ça crée un environnement de hockey qui est très, très agréable. Je dis, tu l'entends beaucoup parler. Tu sais, dans les journaux, c'est pas rare que, premièrement, il y a tout le temps quelque chose sur le hockey dans, sur la page couverture en saison. C'est pas rare qu'il y ait 4-5 pages.
On parle plus souvent de hockey que de politique, par exemple.
Absolument. Je suis pas sûr que c'est la bonne priorité, mais en tout cas. Mais puis quand tu sors publiquement à Québec, je veux dire, t'es toujours reconnu dans le temps que je jouais avec les Nordiques. Tandis qu'on arrive à Los Angeles, on est incognito. Là, je veux dire, à part d'être Wayne Gretzky, parce que j'ai joué avec Wayne Gretzky à Los Angeles, qui était reconnu. Les autres, on passe tout incognito. Puis quand ils ont une demi-page, un quart de page sur le hockey d'un journal à Los Angeles, c'est beau. Là.
Quel a été le joueur avec lequel vous avez eu le plus de difficultés au plan de l'offensive-défensive?
Écoutez, c'est dur à répondre. Moi, je me considère là, très, très chanceux. J'ai joué avec les deux plus grands joueurs de ma génération, Mario Lemieux, junior majeur, puis Wayne Gretzky. J'ai terminé ma carrière avec Wayne Gretzky. Moi, je pense que le joueur le plus difficile à arrêter un contre un, c'était probablement Mario Lemieux, parce que j'ai joué avec lui à Laval, mais après ça, j'ai joué longtemps contre lui là, quand il jouait avec les Penguins de Pittsburgh.
À cause de sa rapidité, son intelligence
jeu. Sa créativité, puis sa force physique également. Je veux dire, aussitôt qu'il prenait l'avantage sur toi physiquement, il n'y avait pas de façon de l'arrêter à moins de prendre une punition.
Et de toutes ces expériences, vous en avez retiré beaucoup.
Absolument.
Oui, on va pouvoir y revenir. On va enchaîner tout de suite avec la musique. Une autre pièce que vous nous proposez, celle de Dan Hill, « Sometime when we touch ». Est-ce qu'il y a une raison particulière?
Bien, moi, ça fait 28 ans que j'étais avec mon épouse. On s'est mariés il y a 24 ans. Et puis, à notre mariage, c'était notre chanson. Fait que quand on s'est connus, ça a été notre chanson fétiche. C'est la chanson qu'on aimait le plus, qu'on écoutait ensemble. Et puis, ça a été la chanson de notre mariage.
Comment se prénomme-t-elle?
Nathalie.
Alors, la chanson suivante, c'est expressément pour Nathalie.
You ask me if I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to, hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch,
The honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides.
Très, très belle chanson. Qui était dédié à Nathalie, la conjointe de Stephen Finn, qui est avec nous aujourd'hui. Joueur de hockey, disions-nous, une saison de hockey, ça implique quoi essentiellement? Au plan de l'entraînement physique, psychologique ou autre, qu'est-ce que ça signifie quand on est rendu à un stade aussi élevé en termes de performance?
C'est très, très éprouvant, je vous dirais, autant physiquement que mentalement, parce qu'il y a beaucoup de matchs. Vraiment, le jeu est rapide, c'est très physique, le hockey. On joue 82 matchs par année, donc on n'a pas... je me rappelle pas, moi, d'avoir joué un match dans la Ligue nationale sans blessure. Évidemment, je parle pas tout le temps de blessure majeure, là, mais je me rappelle pas d'avoir joué un match sans blessure, et tu joues souvent 3 matchs en 4 soirs, donc tu n'as pas le temps de guérir. Fait que c'est très dur physiquement, puis au niveau psychologique, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de pression. Et souvent, je vous dirais qu'on est notre pire ennemi. Comme athlète professionnel, on est très exigeant envers nous. Tu vas jouer un excellent match, tu vas faire une erreur qui coûte un but, puis tu vas te torturer pendant des jours à cause de cette erreur-là. Fait que ça devient très drainant. Et au niveau physique, moi, encore là, je ne suis pas un gars qui était très gros. J'étais en très bonne condition physique, là. Et c'était pas rare que je débutais, mettons, la saison à 196-197 livres. Je terminais l'année, j'étais rendu à 189 livres.
Ah oui, à ce point.
Donc le fait de brûler autant de calories fait que tu perds de la masse musculaire.
Et au plan de l'organisation familiale, ça amène plusieurs contraintes.
Oui, c'est sûr. Écoute, ça prend une femme qui est débrouillarde, qui dépend pas de toi là au niveau de gérer la maison, de s'occuper des enfants, parce qu'on a eu quand même 3 garçons jeunes, mais j'ai une femme qui est très, très forte et qui est très débrouillarde.
Il y a aussi le fait que vous mentionniez en début d'émission que vous étiez guerrier, mais il ne faudrait pas rester sous silence et garder sous silence le fait qu'en 1984, vous aviez été nommé sur la première équipe d'étoiles de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et qu'en 85, vous étiez nommé sur la 2e équipe d'étoiles de cette même ligue.
Oui. Puis quand vous me dites ça, j'ai évidemment un élément de fierté. J'ai l'impression que c'est tellement loin en arrière, mais j'ai un élément de fierté. Et puis ça démontre à quel point le hockey, c'est comme un entonnoir à l'envers. Tu sais, je veux dire, tu peux être le meilleur dans ta ville quand tu es jeune, et plus que tu montes, bien, plus, moins qu'il y a de place, puis plus que la moyenne des joueurs sont talentueux.
Est-ce que ce désir d'un jour atteindre la Ligue nationale était présent depuis fort longtemps? Vous avez commencé à jouer au hockey quand?
J'ai commencé à jouer au hockey à 5 ans. Je vous dirais que ça a toujours été un rêve que j'avais, sans nécessairement croire que je pouvais y arriver. Et j'ai commencé à y croire sincèrement à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai joué Midget 3 avec les Insulaires de Laval. C'est là que j'ai commencé à croire à mes chances de jouer un jour dans le National de hockey.
Et c'est là que vous avez peut-être dit « Maintenant, je m'envole », c'est ce que nous chante Nicole Rieux.
Si je chante avec les oiseaux, je m'en vais, je m'en vais.
Vous envolez souvent comme ça?
Ça prend des ailes.
Oui, parce que vous avez cessé de jouer au hockey en 1998, c'est
exact? C'est bien ça, 98.
Qu'est-ce qu'on fait à la retraite lorsqu'on est jeune? Parce que les joueurs de hockey ne prennent pas leur retraite à 65 ans.
Non, moi, dans mon cas, moi, j'avais 31 ans.
Oui.
Et je suis un gars, moi, qui a toujours lu beaucoup. Et ça faisait drôle quand je partais sur la route, au lieu de partir avec le Journal de Montréal ou le Journal de Québec, dans le temps, je partais avec Le Devoir. Puis les gars riaient beaucoup de ça. Mais tu sais, oui, j'aimais ça m'informer ce qui se passait dans le sport, mais je voulais savoir ce qui se passait dans le monde, en politique. Je lisais beaucoup sur la psychologie, le conditionnement physique, l'alimentation. Fait que j'ai tout le temps eu beaucoup d'intérêt. Et à Québec, veux pas, en étant joueur de hockey, j'ai rencontré beaucoup de gens décisionnels en affaires. J'ai fait beaucoup de relations publiques, beaucoup de promotions. Et c'était clair pour moi que quand j'arrêterais de jouer au hockey, je voulais faire quelque chose de complètement différent. Je voulais me prouver à moi-même et aux gens que j'étais hâte de réussir dans un autre domaine. Fait que j'ai eu une opportunité, est venue plus vite que j'aurais pensé, mais j'ai commencé dans le domaine de l'alimentation comme ça faisait peut-être 5 mois que j'ai pris ma retraite. J'ai commencé comme directeur de compte majeur. Par la suite, il y a un chasseur de tête qui est venu me chercher pour aller dans le domaine pharmaceutique. Et la dernière emploi que j'ai eu dans le domaine, j'étais directeur des ventes. J'avais 14 représentants au Québec et je suis très, très fier de ça.
Donc, vous aviez quand même imaginé et préparé cette retraite. Vous saviez que vous ne joueriez pas au hockey toute votre vie.
Non, absolument. Écoutez, la moyenne des carrières en Ligue nationale là, est 4 ans et demi. Fait que c'est très, très vite passé. Là.
Donc, 12 saisons, c'est une grande saison, c'est une grande carrière.
C'est une belle carrière, mais je vous dirais, évidemment, qu'est-ce qui fait que c'est 4 ans et demi? C'est que tu vas voir des gars qui vont jouer une demi-saison, une saison et demie. Je vous dirais, quand tu as passé peut-être le 5-6 ans, tu as beaucoup de gars qui vont faire un 10-15 ans. On voit même 20 ans aujourd'hui. Là, t'sais.
Est-ce que c'est facile d'imaginer qu'à 40 ans, on sera à la retraite et qu'il faut maintenant se trouver quelque chose d'autre pour occuper ses jours, pour ne pas se sentir inutile?
Je vous dirais que c'est très difficile. Bien, on le sait tous que ça va arriver, puis on pense qu'on se prépare, mais le jour où tu y arrives, c'est très, très difficile. Tu sais, je veux dire, c'est une vie qui est très prestigieuse. Tu es toujours, premièrement, tu restes comme un enfant, tu es toujours avec une gang de boys, l'équipe. Tu voyages en avion Élysée, tu restes dans les plus belles hôtels, tu es mis sur un piédestal par les gens. Et du jour au lendemain, quand tu arrêtes, bien, tu es rendu comme monsieur, madame, tout le monde, et puis tu dois te trouver. Tu dois trouver un défi qui va faire que tu vas te sentir revalorisé. Je veux dire, on doit également gagner notre vie, mais avant tout, il faut trouver de quoi qui va faire qu'on va se sentir revalorisé, qui va nous exciter.
Ajouter de la valeur à sa vie.
Absolument.
Vous aviez comme deux cœurs. Un cœur pour le sport, parce que vous aviez évolué pendant toute la vie dans le domaine du hockey. Mm-hmm. Mais là, il fallait trouver un autre cœur pour donner du sens à celle-ci.
Absolument.
Bien, c'est un peu ce que chante Phil Collins. Là, on y arrive. C'est un chanteur que vous aimez beaucoup.
Et moi, à l'adolescence, j'écoutais beaucoup le groupe Genesis. Et c'est un groupe qui avait énormément de talent. T'sais, on pense à Peter Gabriel, un gars que j'aime beaucoup aussi. Mais Phil Collins, moi, je trouve que c'est un des plus talentueux, en tout cas de ma génération, que moi j'ai écouté. Là. Puis je trouve qu'il est tellement simple. Tu vas le voir en spectacle, il arrive sur scène, il y a pas de fla-fla, il est en jean, un t-shirt blanc, il joue, il chante.
Avez-vous eu déjà la chance de le rencontrer personnellement?
Je ne l'ai pas rencontré personnellement. Je suis allé le voir en spectacle à quelques reprises, mais je ne l'ai pas rencontré personnellement.
C'est probablement un rêve à réaliser.
Oui, oui.
Bon, on va terminer cette première partie avec un de ses grands succès, Two Hearts, qui résume bien ce que vous venez de nous raconter. Et dans la seconde partie, on creusera un peu plus ce que vous faites maintenant. There's no reason to believe she'd always